Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 12, 21 août 2025. Keiko s'était assise à sa place favorite dans le train qui l'emmenait à Sagamihara depuis Yokohama. Comme tous les matins, elle regardait les informations de 7 heures. On voyait une jolie image de la station spatiale internationale. Keiko avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. La présentatrice disait que la NASA avait donné l'ordre d'évacuer immédiatement l'ISS. Il y avait à son bord 3 astronautes américains et 2 cosmonautes russes. La raison de cette décision était qu'il y avait trop de risques de collision avec des débris spatiaux. La présentatrice parlait également de la destruction partielle du télescope Hubble par un débris quelques jours avant. Mais Keiko ne comprenait pas s'il y avait un lien entre les deux. Elle avait ensuite parlé d'un morceau de panneau solaire de la station spatiale qui aurait été vu par l'un des astronautes à bord, flottant à proximité d'un des modules d'habitation de la grande station. Keiko zappa et trouva rapidement la conférence de presse qu'avait organisée la NASA la veille au soir en grande hâte. Un certain John Mitchell, qui était un haut responsable de l'agence spatiale américaine, annonçait que la situation actuelle concernant les débris spatiaux était devenue soudainement très dangereuse pour les missions en orbite basse et qu'il était préférable d'évacuer la station temporairement. Par ailleurs, tous les lancements, quels qu'ils soient, avaient également été interdits par l'autorité de contrôle des activités spatiales jusqu'à nouvel ordre. Par chance, il y avait 2 vaisseaux amarrés à l'ISS actuellement. Un Dragon américain qui pouvait ramener les 3 astronautes et un Soyouz russe qui pourrait transporter les 2 cosmonautes. La procédure avait déjà été mise en œuvre quelques heures plus tôt et c'est la capsule Dragon qui s'était détachée la première de la station. Techniquement, les 2 derniers habitants de l'ISS auront été Dmitri Dichenko et Vassili Groutchev. Le vaisseau Soyouz s'était détaché de la station spatiale le 19 août à 19h19, temps universel. Mitchell était également revenu sur une information provenant du Jet Propulsion Laboratory et de Caltech, qui géraient ensemble le télescope spatial Hubble. Ils annonçaient que le télescope s'était mis en safe mode une semaine avant et que les analyses des scientifiques indiquait que le miroir avait été brisé par l'impact d'un petit objet qui était entré dans le tube alors que le télescope était en train d'effectuer une observation. Il était définitivement hors service. Keiko avait du mal à saisir l'ampleur des informations qu'elle entendait. En seulement quelques semaines, la JAXA avait perdu son télescope spatial phare et aujourd'hui, c'était le grand télescope Hubble qui subissait le même sort. Et l'ISS avait été touché et était maintenant déserté en urgence, une situation qui n'était jamais arrivée depuis la création de la station spatiale en 2000. Il n'y avait plus d'hommes en orbite aujourd'hui, pensait Keiko. Mais au moment même où elle avait cette pensée, sur son écran, Mitchell parla de la station spatiale chinoise, en disant qu'il espérait que la CNSA prendrait une décision similaire à celle de la NASA. Il y avait donc encore 2 astronautes en orbite. Ils étaient chinois. Keiko se demandait ce qu'allait devenir la station spatiale internationale, sans personne à bord. Si elle avait été impactée par un débris qui avait pu détacher un morceau de panneau solaire, cela signifiait que d'autres débris pouvaient à nouveau l'atteindre à chaque révolution, toutes les 90 minutes environ, à cette altitude. Les débris étaient rarement isolés et se trouvaient souvent par groupes. Ce qui était arrivé à X-Chrism en était un bon exemple. Elle savait que l'ISS perdait constamment de l'altitude à cause du freinage atmosphérique. Elle était incollable sur le sujet. L'ISS perdait entre 25 et 50 mètres d'altitude chaque jour. Ce chiffre variait notamment en fonction de l'activité solaire, entraînant une dilatation plus ou moins grande de l'atmosphère. Ce mouvement d'usure de l'orbite ne pouvait que s'accélérer si on le laissait agir, car l'atmosphère devenait plus dense à mesure que l'altitude diminuait. L'ISS devait effectuer des manœuvres de rehaussement d'orbite tous les 1 à 2 mois environ, en utilisant soit les moteurs du module de service du segment russe Zvezda, soit les moteurs des modules de ravitaillement automatiques amarrés à la station. Les cargos russes Progress ou les cargos américains Cygnus, lorsqu'ils venaient apporter des vivres et du matériel et exfiltrer les déchets des astronautes qu'ils brûleraient ensuite en rentrant dans l'atmosphère. Les modules de ravitaillement étaient prévus pour donner une accélération supplémentaire de façon à regagner jusqu'à 1 km d'altitude. Sans plus personne à bord, il était probable qu'aucun module de ravitaillement ne soit envoyé prochainement, ce qui signifiait que l'ISS perdrait plus d'altitude que prévu. Une fois qu'elle serait trop basse, la remontée serait sans doute encore plus difficile, nécessitant de multiplier les coups de boost. Keiko se souvint soudainement de ce film catastrophe américain que son ami Shohei lui avait conseillé de voir. C'était un film qui avait remporté de nombreux Oscars 10 ans plus tôt et qui retraçait des événements qui ressemblaient étonnamment à ce qui était en train de se passer, mais en beaucoup plus violent, évidemment. Deux astronautes se retrouvaient coincés seuls dans l'espace après la destruction de la Station spatiale internationale et du télescope Hubble par des débris spatiaux. Seule l'héroïne parvenait à s'en sortir d'une manière rocambolesque en rejoignant la station spatiale chinoise grâce à la propulsion d'un extincteur. C'était donc aujourd'hui deux astronautes chinois qui se retrouvaient seuls dans leur station. Et l'ISS, comme le télescope Hubble, commençait à être impacté par des débris. Le scénario catastrophe devenait réalité. C'était l'une des informations les plus secrètes du département aérospatial de l'armée populaire de Chine. L'information était remontée au président Xi Jinping en moins de 3 heures par la voie hiérarchique la plus rapide. Le lieutenant Guo l'avait transmise au commandant Ma, qui l'avait transmise au colonel Feng, qui s'était empressé de la transmettre au général 2 étoiles Zhuo, qui l'avait à son tour donnée au général 3 étoiles Zheng, qu'il l'avait transmise, après quelques hésitations, au général et chef d'état-major Peng, qui l'avait donné en main propre au président de la République populaire, sans passer par le ministre de la Défense. La navette spatiale secrète Shenlong avait été entièrement détruite le 5 août, alors qu'elle venait d'entamer son 4e vol de longue durée depuis 3 mois. L'origine en était officiellement inconnue. Tous les scénarios belliqueux possibles avaient été imaginés. L'état-major avait également rappelé au président la perte d'un satellite d'écoute le lendemain même de celle de la navette militaire, ainsi que celle d'un satellite scientifique 2 jours plus tard. Les coïncidences étaient troublantes. L'avion spatial, comme l'appelaient les dirigeants chinois, avait initialement été nommé Chongfu Tianyong Qiang Angtian Qi, CSSHQ, puis avait rapidement été renommé Shenlong. Il avait fait son premier vol en 2020, lancé depuis la base de Yongkan, dans la province de Gansu, propulsé par un lanceur Changzheng 2FT. Cette navette de plus de 8 tonnes avait été développée dans le plus grand secret à partir du moment où les responsables militaires chinois du département aérospatial avaient mis la main sur les plans du X-37B américain, fin 2008. 2 ans avant que la navette secrète conçue par Boeing effectue son premier vol loin des regards. Il avait fallu 11 ans aux ingénieurs chinois pour concevoir, fabriquer, tester et valider tous les composants de leur avion spatial, dont la ressemblance avec le X-37B ne faisait aucun doute. Il était prévu pour mettre en orbite des satellites, mais aussi pour en récupérer, et pas forcément des satellites chinois. C'était du reste le même objectif que celui des Américains avec leur X-37B. C'était Xi Jinping qui avait décidé du lancement de ce programme stratégique, avec l'objectif affiché de dominer le domaine du spatial militaire pour affirmer la grandeur de la Chine dans ce domaine. L'agence spatiale, la CNSA et l'armée populaire marchaient main dans la main dans le programme Shenlong. Lorsque les responsables chinois entendirent la conférence de presse alarmiste de la NASA annonçant l'évacuation immédiate de la Station spatiale internationale, qui se doublait d'une interdiction de tout lancement depuis le sol américain jusqu'à nouvel ordre, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, comprit que la situation était grave. Il proposa au président Xi Jinping de révéler la perte de la navette Shenlong 2 semaines plus tôt. La navette chinoise avait probablement été elle aussi victime d'impacts de débris imprévisibles, comme l'avaient été d'autres satellites américains depuis quelques semaines, notamment le télescope Hubble. Il fallait aussi décider quoi faire avec la station Tiangong, qui orbitait à une altitude similaire à celle de Shenlong, aux environs de 360 km. Deux taïkonautes y séjournaient encore. Avec le départ précipité des 3 Américains et des 2 Russes de l'ISS, Li Tang et Guo Chang étaient les 2 seuls humains qui restaient encore en orbite. Si l'ISS avait été touché par un débris qui n'avait pas pu être détecté à temps, cela signifiait que la même chose pouvait arriver à la station chinoise à tout moment. Il fallait faire vite. Xi Jinping convoqua les généraux Zheng et Peng, ainsi que le directeur de la CNSA, au sujet de la situation nouvelle de l'orbite basse, de la perte de la navette et des risques encourus par les 2 taïkonautes à bord de Tiangong. « Nous ne pouvons pas abandonner Tiangong comme les Américains viennent de le faire avec l'ISS !» lança le général Zheng. « Ce serait une trop grande perte. Que va-t-il arriver à l'ISS abandonné, à votre avis ?»« S'il n'y retourne jamais, ça me paraît clair qu'elle finira par être désorbitée !» répondit le directeur de la CNSA. Mais je ne sais pas s'ils ont encore un moyen de modification de l'orbite, étant donné qu'ils ont évacué avec les 2 capsules qu'il leur restait. Mais pour éviter qu'elles ne produisent trop de débris suite à des collisions multiples, il serait pertinent de la désorbiter le plus vite possible.
Vous connaissez le montant de l'investissement que cela a représenté ? Demanda Xi Jinping.
En tout cas, ça se monte en centaines de milliards de dollars depuis presque 30 ans, répondit l'ingénieur en chef. Xi Jinping opina. Il connaissait le budget qui avait déjà été alloué au programme de station spatiale chinoise.
« Le risque pour nos hommes est très grand, » répliqua le général Peng. « Nous ne pouvons pas laisser nos 2 valeureux taïkonautes prendre un aussi grand risque. »«
Si on abandonne Tiangong, son sort sera le même que celui de l'ISS, » dit le général Zheng.
« Que pourrait-on faire pour sauver en même temps la station et nos hommes ?» demanda le président.
« Il y aurait bien une solution, » lança le chef de la CNSA, que fixaient maintenant les 3 hauts dirigeants. « Nous avons un vaisseau Chenzhou, » arrimé à Tiangong actuellement, qui doit permettre au colonel Li Tang et au commandant Guo Chang de rentrer. Nous pourrions utiliser le moteur de ce vaisseau de transport pour déplacer Tiangong vers une orbite beaucoup plus élevée.
Avec les taïkonautes à bord, donc ? Demanda le général Peng.
Oui, on pourrait amener Tiangong à la limite haute de l'orbite basse, parce que tous les problèmes de débris spatiaux se trouvent dans l'orbite basse, entre 300 et 1000 km d'altitude. On pourrait remonter Tiangong jusqu'à 1200 km, par exemple.
Cela prendrait combien de temps ? Demanda le général Peng.
Quelques heures, plus, répondit le directeur de l'agence spatiale.
Ça me paraît être une très bonne idée, dit le général Zheng.
Mais cela signifie que nos 2 taïkonautes vont devoir traverser toute la zone de l'orbite basse 2 fois, une fois en montant et une seconde fois en redescendant. Le risque pour eux est démultiplié, dit le général Peng.
Ne serait-ce pas plus prudent de les ramener sur Terre tout de suite, sans avoir à traverser toute la zone dangereuse ?
Demanda le général Peng.
C'est vrai, il faut aller le plus vite possible, répondit l'ingénieur en chef. « Et il y aurait quelques manœuvres subtiles à effectuer avec le Chenzhou. Mais si on les ramène tout de suite, nous n'aurons plus aucun moyen de remonter l'orbite de Tiangong. Le prochain Chenzhou, qui était prévu, ne sera prêt que dans 6 mois. Ou bien il faudrait accélérer fortement la phase de validation et de test, mais on ne pourrait gagner que 1 à 2 mois. » Vu ce qui se passe en ce moment dans l'orbite basse, je ne pense pas que l'on puisse laisser Tiangong là où elle est pendant 4 mois.
Je trouve que cette idée de remonter Tiangong très haut est une très bonne idée, lança le général Zheng.
Quel genre de manœuvre subtile devrait être effectuée avec le Shenzhou ? Demanda Peng.
Eh bien, quand il est amarré à la station, le module de transport ne peut que s'élérer avec son moteur principal et faire une rotation avec ses moteurs latéraux.
On ne pourrait pas faire une forte décélération avec les moteurs d'appoint, puisque ça endommagerait la structure de Tiangong. Et pour remonter l'orbite jusqu'à 1200 km, on aurait besoin d'accélérer fortement, et une fois arrivé là où on le souhaite, il faut décélérer, et pour ça, il faudra retourner l'ensemble à 280 degrés, avec les moteurs latéraux de Shenzhou, puis réaccélérer avec le moteur principal, jusqu'à la stabilisation sur la nouvelle orbite.
Xi Jinping écoutait attentivement les explications du directeur de la CNSA.
« Le Shenzhou n'a pas été prévu pour ce type de manœuvre, n'est-ce pas ?» demanda le général Peng.
« Non, et avant d'effectuer ces actions, nous devrons calculer précisément la trajectoire et les manœuvres à faire. »«
Cela prendrait combien de temps ?» demanda le général Peng.
« Sans doute une demi-journée, pour être sûr de nos calculs, »
répondit le directeur de la CNSA.
« Donc une demi-journée de perdu pour nos taïkonautes ?» rétorqua le général Peng. « D'ailleurs, est-ce que la quantité de carburant du Shenzhou est suffisante pour effectuer toutes les manœuvres que vous mentionnez et ensuite ramener nos hommes ?»«
Normalement, ça devrait être suffisant, » répondit l'ingénieur. « Cela fait partie des calculs qui doivent être faits, mais dans le pire des cas, l'accélération produite sera moins forte pour consommer moins de carburant, ce qui induirait une durée plus longue, à la fois dans le sens de la montée et dans le sens de la descente. »
Donc plus de risques pour le colonel Li Tang et le commandant Guo Chang, répliqua le général Peng.
Il faut voir le ratio bénéfice-risque, répondit le général Zheng. Il existe certes un risque accru pour nos hommes, mais nous aurons un très grand bénéfice dans le futur à conserver une station spatiale intacte, surtout si la station américano-russe doit disparaître prématurément. Je pense que ce ratio bénéfice-risque va clairement en faveur de cette idée que propose la CNSA.
Xi Jinping fit un mouvement sur son fauteuil en cuir noir et les deux généraux et l'ingénieur spatial se tournèrent vers leur président.
Très bien, nous allons faire ça. Remonter notre station spatiale en dehors de la zone dangereuse et ramener nos hommes le plus vite possible. Ce sont de valeureux militaires. Ils savent ce qu'est un risque et surtout un risque mortel.
Les trois hommes s'inclinèrent légèrement en signe d'approbation de la décision présidentielle. Puis le général Zheng reprit la parole.
Nous devons évoquer la question de Shenlong. Il me semble que ce serait le bon moment pour annoncer ce qui est arrivé. Est-on certain que cette destruction est accidentelle ?
Demanda Xi Jinping.
Oui, monsieur le président, répondit le général. Notre avion spatial ne transportait rien qui puisse provoquer une explosion capable de le détruire en de nombreux fragments comme ce qui a pu être observé. De toute évidence, Shenlong a connu le même sort que le télescope Hubble et d'autres satellites ces dernières semaines.
Et une action ennemie ?
Rétorqua le président.
Cette hypothèse a bien sûr été étudiée depuis que nous avons eu connaissance de la perte de Shenlong, mais aucun indice ne peut laisser supposer cela.
Fit Zheng avec un ton très assuré.
En dévoilant cette triste perte, nous nous positionnons en tant que victimes de ce qui se passe là-haut,
ajouta le général Peng.
Cela pourrait adoucir vis-à-vis des Américains et de la communauté internationale notre décision parallèle de laisser nos taïkonautes un peu plus longtemps en orbite.
Xi Jinping se pencha.
Bien, je vous laisse annoncer la perte de notre avion spatial. Mais en revanche, ne communiquez pas au sujet de notre satellite d'observation.
C'est entendu, monsieur le président,
répondit le général Zheng.